Alors, incluons-la dans la discussion. Ariel Pacaud, bonjour.
Bonjour.
On va parler avec Gaëlle et vous de Vitiligo. Je vous ai posé la question dans le corridor. Vous n'êtes ni présidente, ni directrice, ni concierge. Qu'êtes-vous?
Eh non, je suis juste une maman qui a en fait une jeune demoiselle qui souffre du vitiligo.
Mm-hmm.
Et j'ai voulu en fait m'impliquer pour donner un petit peu... une visibilité à cette affection, parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était quelque chose qui était vraiment laissé pour compte.
Ouais.
Et sur lequel, en fait, il y avait le patient, en fait, était vraiment laissé de côté pour moi, je trouve.
Est-ce qu'il y en a une association qui s'intéresse au vitiligo?
Ben, c'est ce que je disais à Mme Ouellette. J'en ai une qui a été répertoriée, qui se trouve à Toronto, mais en fin de compte, je m'aperçois que c'est comme si c'était un petit peu du creux, parce que derrière, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose.
Mmh. Ouais. C'est donc une affection de peau qui, consistant à une perte de pigmentation.
C'est ça.
Ce qui donne une couleur blanche à la peau.
Oui, mais c'est ça.
Par tache, c'est ça?
C'est ça, c'est pas uniforme, mais ça apparaît.
Des plaques.
C'est ça, c'est des plaques, mais en fonction du type de vitiligo, parce qu'il y en a plusieurs, il peut apparaître à différents endroits, soit uniformément, soit d'un côté, ou alors dans les cas les plus importants, c'est une dépigmentation à l'intégrale.
Dans mes notes, on parle d'un à 2% de la population et n'importe qui peut en être atteint.
C'est ça.
Ben c'est beaucoup, 1 à 2%.
C'est ce qui est répertorié, mais comme je le dis, en fin de compte, quand on regarde bien, déjà au Canada, on n'a aucune statistique. Donc, je ne sais pas sur quoi exactement ces chiffres sont basés. Là. C'est un petit peu difficile pour moi d'avoir vraiment un pourcentage vraiment exact.
Est-ce qu'on connaît la raison?
Non.
La cause?
Je pense... Non, je ne peux pas vous dire... J'en ai vraiment pas aucune idée.
Est-ce qu'on sait quelle ne serait pas la cause? Parce que des fois, c'est comme ça qu'on commence la recherche. Au moins, on élimine.
Je pense que...
C'est pas contagieux. Ça,
non,
on le sait.
C'est pas contagieux, c'est pas douloureux.
C'est pas une infection.
Non. C'est juste, en fait... je dis juste. C'est pas vraiment juste. C'est, en fait, au niveau de l'apparence de la personne. Donc, ça va plus toucher la personne au niveau psychologique. Parce qu'en fin de compte, elle le véhicule sur elle, donc partout où elle va aller, que ce soit pour à l'école, pour les enfants, dans la rue, dans les commerces, pour un emploi. En fait, c'est apparent. Donc la personne le véhicule et en fin de compte, les gens qui ne connaissent pas vont avoir des préjugés, vont avoir des idées
préconçues. Ouais, ça saisit.
C'est ça.
Ouais. Ça peut être génétique?
Oui. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a différents... Ils disent que ça peut être génétique, ça peut être auto-immune, ça peut être un facteur de stress, ça peut être... Il y a plein de différents facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et c'est surtout que ça touche aussi bien l'enfant, l'adulte, l'homme, la femme. Il n'y a pas de... C'est toutes les ethnies qui peuvent être touchées.
Y a-t-il des régions du globe qui sont plus atteintes que d'autres?
Ça, je ne peux pas vous dire.
Gail, par hasard, là, si vous savez quelque chose... Gênez-vous pas.
Ben, en principe, c'est toutes les ethnies qui peuvent être affectées parce qu'évidemment, il y en a des maladies qui sont plus fréquentes dans certaines populations ethnies ou dans certains pays. Mais dans ce cas-ci, ce serait toutes les ethnies. Puis en fait, c'est ce qu'on appelle une maladie multifactorielle. Donc, on n'a pas une cause précise. Comme Madame disait, génétique, auto-immune. Puis génétique, c'est une susceptibilité génétique. On suspecte certains gènes que si la personne a un marqueur spécifique pour ce gène-là, la rend plus susceptible d'avoir le vitiligo, mais il faut d'autres facteurs qui interviennent aussi. Ça, c'est un peu comme le cancer, en fin de compte, d'autres maladies multifactorielles comme ça. Alors, et puis le fait aussi que ça, c'est pas nécessairement là à la naissance, hein, puis ça peut apparaître au cours de la vie, nous pose des questions justement sur ce mécanisme-là qui est pas entièrement génétique. Et dans ce sens-là, ne devrait pas être héréditaire clairement, mais il peut y avoir des agrégations là, dans des familles. Mais c'est à peu près... On sait que c'est au niveau de la mélanine, hein, qui est finalement le colorant, si on veut, pour la peau. Le pigment. Donc, quelque chose là, qui se passe à ce niveau-là, mais c'est pas clairement établi.
Ariel, vous me disiez que ça évolue. si on veut, le pourcentage de la peau affectée de votre petite bonne femme est en croissance. Oui. Donc, c'est comme si on ne peut pas aussi facilement s'habituer en disant, bon, je suis comme ça, je suis comme ça, faut que je vive avec, parce que le « je suis comme ça » d'aujourd'hui ne sera pas le même que l'an prochain.
Mais disons
que
ça, c'est ça, c'est d'une personne à une autre, et ça peut être différent. Il y a des personnes qui vont avoir une plaque ou une tache qui va apparaître, elle ne va pas évoluer. Il y en a sur lesquelles elle va régresser, et il y en a sur d'autres où ça va se développer à d'autres endroits sans pour autant savoir la raison. Mmh. Donc, c'est ça qui est un petit peu délicat et sur lesquels, je pense, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas le contrôle. C'est en fin de compte, ça évolue ou ça régresse, mais c'est plus vers l'évolution que la régression.
Mis à part la surprise et peut-être une maladresse sociale évidente, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a d'autres effets au vitiligo?
Mais il y a d'autres maladies auto-immunes qui peuvent venir se greffer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont développer d'autres maladies qui vont venir en fait se greffer sur le vitiligo.
Donc, on serait plus susceptible.
Oui.
Parlez-moi de votre fille.
Ben moi, j'ai une magnifique petite jeune fille qui a 9 ans, qui a été en fait diagnostiquée avec son vitiligo. Elle avait 6 mois. Mais à mon avis, elle l'avait à la naissance parce qu'en fin de compte, la tâche qu'elle avait déjà à 6 mois était déjà assez importante. Et depuis ces 6 mois, en fait, ça n'a pas arrêté de progresser. Et maintenant, elle en a. Au début, elle en avait juste sur l'abdomen. Maintenant, elle en a les mains, les pieds, les coudes, le ventre, toutes les parties génitales, le visage, le cou, le dos. Enfin, c'est un petit peu réparti, un petit peu partout. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle s'étale, mais il y a d'autres plaques qui vont apparaître à d'autres endroits. Donc, ce n'est pas uniforme. C'est pas, elle ne va pas avoir tout un bras blanc. Ça va être quelques doigts, la paume, au niveau du poignet.
Ouais. Est-ce qu'il y a des masquants, que ce soit de la crème auto-bronzant ou...
Oui, il y en a. Il existe, bien sûr, des cosmétiques qui existent. La seule chose, c'est que c'est quand même assez contraignant parce que ça prend beaucoup de temps de couvrir toutes les parties. Et en même temps, il y a aussi le facteur, toutes les activités, vous allez à la piscine ou autre, surtout pour des enfants en bas âge, c'est assez contraignant, je pense. Et puis, je pense qu'il faut plus essayer d'aller à l'inverse, c'est-à-dire de les faire accepter par la société et qu'eux-mêmes s'acceptent, que d'essayer de changer l'apparence qu'eux ont, comme si, en fait, c'était à eux de devoir essayer d'intégrer la société.
Ouais.
Je pense que c'est un petit peu l'effet inverse qu'il faut essayer de faire et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire à ma façon.
Je n'ai jamais vu quelqu'un avec le vitiligo, à quel point, et là je me tourne vers vous deux, à quel point est-ce visible et comment s'habituer à être regardé à ce point-là?
Disons que c'est sûr que c'est plus visible pour les personnes qui sont de couleur.
Oui, c'est vrai.
Parce que justement la différence, le contraste est beaucoup plus important, ce qui est que c'est pas pour autant que c'est mieux pour une personne qui soit plus d'un teint plus clair. Parce que la personne le sait de toute façon, donc elle le porte en elle. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus important. Et ce qui est plus difficile, c'est surtout quand c'est au niveau du visage, tout ce qui est en fait visible, qui ne peut pas être caché par l'habillement, que ce soit par un t-shirt ou un pantalon. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ne vont pas faire certaines activités parce qu'ils ne veulent pas, genre aller à la piscine.
Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, ils sont gênés. Voilà. Moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai créé, c'est ce que je disais à Mme Ouellette, parce que moi, en tant que parent, je ne suis pas une association, mais j'ai voulu, en fait, donner une voix et faire voir que le vitiligo est aussi présent au Canada et particulièrement au Québec. Et donc, j'ai créé une page qui s'appelle Vitiligo Montréal-Québec pour un petit peu faire voir une image beaucoup plus positive, des photos beaucoup plus colorées, où les gens sont plus positifs, parce qu'en fait, ça joue énormément sur l'estime de la personne. Et sur l'image qu'on essaye de véhiculer, parce que toutes les images médicales sont très négatives, elles sont très ternes, elles sont fades, elles sont très péjoratives.
Mais comment rendre une image positive justement de quelqu'un qui offre un regard aussi différent?
C'est en fait intégrer, comme là, le projet que je suis en train de... qui est en cours, hein, qui a lieu le 14 novembre au mai, qui est situé au 3680 rue Jeanne-Mance, qui m'a au fait donné cette possibilité de pouvoir expliquer et de pouvoir donner en fait une vitrine au vitiligo, mais une vitrine positive par le biais de l'art. Pour moi, en fait, le vitiligo, on peut l'afficher et on peut le montrer, mais de façon différente. C'est pour ça que j'ai voulu aussi intégrer une artiste, qui est une artiste franco-américaine, qui en fait a mis en place un projet qui s'appelle Face Motions et qui utilise en fait ces toiles de peinture et qui intègre en fait la personne atteinte de vitiligo dans la toile pour en fait faire voir et faire transparaître l'émotion. Ça peut être la colère, la joie, la peur, mais en fait les couleurs de la toile et puis la personne en tant que telle, ben, ça donne une autre image et en même temps ça donne un soutien à la personne pour faire voir qu'elle est comme les autres, elle a une beauté.
Ouais.
Il faut savoir l'exploiter, il faut savoir la montrer.
Je me demande si une des difficultés pour ces gens-là n'est pas justement le si petit nombre. Si on voyait une réalité comme celle-là, probablement qu'on serait moins surpris chaque fois et que éventuellement ça passerait.
Ben,
les premiers gars qui ont eu les cheveux très très longs, puis à un moment donné, oups, ça.
Je pense que c'est aussi il y a aussi une part dans l'éducation.
Ouais.
C'est-à-dire que plus on va commencer à éduquer les enfants à accepter, à faire voir qu'en fin de compte, on est tous un individu et que chaque personne a il est comme il est, quoi. Et savoir accepter la différence, faut être tolérant. Et ça, en fait, ça vient dès le jeune âge. Et pour moi, il y a un travail à faire dans les écoles. Et ça, c'était aussi une chose que je voulais aborder, c'était l'école.
Ouais, non, c'est vrai qu'il y a de l'éducation à faire. Puis c'est quand même très bien d'avoir initié avec la page Facebook, justement, la discussion. La page qui sera en lien sur la page d'Accès Libre. Ariel, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est court. Rappelons donc le 14, vendredi.
C'est ça.
Quelle heure?
À partir de 9h, de 9h à 14h, donc les Face Motion avec Stéphanie Korn, et de 15h à 17h, la table ronde avec le mai. Et je voudrais aussi remercier M. Michael Toppings qui m'a en fait donné la possibilité d'utiliser le MEP pour cet événement.
Intéressante cette discussion. On revient dans 2 minutes. Ariel Paco, à bientôt.
Merci beaucoup.